Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wamakar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Haloud Mauni.
Chenni Berry.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Référendum du 18 juin, que retenir du déroulement du scrutin? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Et comme vous le savez, les Maliens sont sortis pour voter oui ou non pour le projet de nouvelle constitution. À Bamako, comme à l'intérieur du pays, l'atmosphère était timide, témoignent des observateurs. Au sein de la population, l'élection référendaire est appréciée diversement. On en parle donc avec trois invités, honorable Aminata Sangaré, membre du CNT et président des femmes du Corema, Abdoulaye Traoré du parti RJS, Rassemblement pour la justice sociale, Mohamed Lassine Diarra de la mission d'observation pour les élections au Mali, Modèle Mali. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La première question, je vais l'adresser à la mission d'observation pour les élections au Mali, monsieur Mohamed Lassine Diarra. Quel regard faites-vous de l'organisation de cette élection référendaire?
Merci Mariam pour le plateau. Comme vous le savez, la mission d'observation des élections au Mali modèle, c'est ce dispositif-là quand même qui s'est spécialisé dans l'observation électorale. Alors s'agissant de ce référendum, en termes d'organisation, de façon générale sur le terrain, en tout cas nous avons constaté qu'il y a eu assez d'efforts. On peut dire, suivant nos observations, un taux de satisfaction à hauteur de 83% s'agissant de l'organisation technique et matérielle. Ça, c'est les informations par rapport à l'organisation matérielle. Mais bien entendu, il y a d'autres éléments, certainement que j'aurai l'occasion de développer au cours des échanges. Ce serait plus pratique encore.
Merci beaucoup pour cette introduction, M. Diarra. Le temps de donner la parole à Honorable Aminata Sangaré. M. Diarra vient de dire que 83% de taux de satisfaction, assez d'efforts du gouvernement. Je vous repose la même question. Quel est votre regard sur l'organisation de cette élection référendaire?
Ok, merci Mariam pour l'opportunité. Et vraiment, c'est un honneur pour moi de faire ce débat avec mes grands frères. Vraiment, c'est un honneur pour moi. Je peux dire que mon constat est que, en si peu de temps, le gouvernement de la transition a pu déployer des efforts. Il faut vraiment retenir ça. Pour tenir ce délai, il y avait vraiment des enjeux à tenir. Donc le gouvernement vraiment a fait un effort par rapport à ça, vis-à-vis même de la Constitution. Donc il met en exergue la souveraineté de ces pays en entier.
Monsieur Traoré Abdoulaye, vous venez d'écouter votre coup de débattrice tout à l'heure, Madame Aminata Sangaré. Vous êtes du camp du régime, même pas du nom de ce projet de nouvelle Constitution. Déjà, quel est votre regard? Elle vient de dire en si peu de temps, le gouvernement a réussi à organiser cette élection référendaire. Est-ce que c'était si peu de temps et quelle est votre idée là-dessus?
Et bonsoir Mariam, bonsoir le plateau. Je suis là au nom du parti Rassemblement pour la justice sociale, mais aussi de Diguia Croix, qui est membre de l'appel.
Appel du 20 février.
Appel du 20 pour sauver le Mali. Mariam, je rappelle. Et l'appel du 20 février pour sauver le Mali est une organisation qui a été créée uniquement pour ces deux objectifs. Et le premier objectif, c'était de faire en sorte que nos autorités de la transition puissent respecter effectivement nos lois, notre constitution de 92 qui est toujours en vigueur et qui puisse quand même respecter aussi leur engagement pris vis-à-vis des Maliens et de la communauté internationale. Donc l'appel du 20 février, mon parti, ont toujours œuvré vraiment à ce que ce soit l'intérêt supérieur du peuple malien soit préservé pour que l'état des droits, la démocratie, les principes démocratiques soient respectés. Donc c'était dans ce cadre que l'appel du 20 avait fait vraiment beaucoup de démarches à travers des meetings, à travers des conférences de presse, des points de presse, en démarchant des politiques, sociétés civiles, religieuses, pour quand même empêcher ces référendums qui s'est passé dans des conditions irrégulière que nous n'avons jamais vue. Peut-être que quand on va rentrer dans les débats, on aura l'occasion vraiment de les développer. Donc nous pensons que vraiment c'est un recul démocratique et nous sommes vraiment au regret de constater cela. Quand on va rentrer dans les débats, on va les développer.
Alors, M. Traoré, je vais vous laisser la parole. Vous venez de dire un regret démocratique. Le vote, c'est également un acte citoyen. Est-ce que cet acte citoyen également, ce devoir citoyen, comme vous venez de le dire, ne passe pas également par ce vote-là? Est-ce que si vous avez pu mobiliser tous vos soutiens pour aller voter, ça pouvait également donner votre position par rapport à ce projet de référendum?
Mariam, je vais d'abord vous dire que la démocratie, c'est une option, c'est un choix. Et le peuple malien, à travers la conférence nationale, a opté pour la démocratie, pour la République, pour l'état des droits. Donc, nous avons alors adopté une constitution qui nous gère de 92 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous avons remarqué que depuis 2020, août 2020, il y a eu un coup d'état dans notre pays, alors dont les auteurs n'ont pas pu assumer leur coup d'état. Donc c'est sur la constitution que les autorités de la transition ont prêté serment. C'est sur la charte de la transition que ces autorités ont prêté serment, donc ont pris des engagements. Donc nulle part dans la constitution ou dans la charte, nous n'avons vu quelque part qu'il faille faire un changement de constitution par ces autorités et maintenant. Donc c'est une situation qui nous ont imposée parce que c'est eux qui disposent effectivement les moyens de l'État aujourd'hui, c'est eux qui disposent effectivement les armes. Donc les gens sont martyrisés, les gens sont emprisonnés à cause de leur opinion. Donc les partis politiques sont opprimés à cause de leur opinion. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir? Nous constatons quand même aujourd'hui qu'il n'y a pas d'engouement, qu'il n'y a pas d'affluence. Donc, d'où vraiment ce constat amer que vraiment les gens ne sortent pas. Donc, ça veut dire que le peuple n'y adhère pas. Donc, vraiment, nous, aujourd'hui, en allant voter, en allant faire ce semblant de devoir citoyen, c'est se trahir, c'est trahir les principes démocratiques. Alors c'est légitimer alors ce projet séparatiste hasardé, dangereux.
De vous couper. Est-ce que vous dites que cette transition n'a pas la légitimité nécessaire pour organiser ce projet de nouvelle constitution? Mais je me dis également, est-ce que ils n'ont pas la légitimité d'organiser, mais en donnant votre voix également, vous pouvez contrecarrer ce projet de nouvelle constitution de passer également.
Madame, nous l'avons toujours dit que cette transition,
parce que
ces
votre position donne libre cours à ce que ce projet passe.
Je viens, non, pas forcément. Je viens, Madame. Comment voulez-vous que lorsque on sait que la règle du jeu est faussée depuis le départ, comment voulez-vous qu'on s'y associe? On va être complice. Nous savons que le gouvernement de la transition qui est censé être l'arbitre, qui est censé être neutre, alors si le gouvernement alors change de statut, si le gouvernement et les autorités de la transition alors se transforment en des partis politiques pour défendre des projets référendaires illégitimes, illégaux et dans les conditions illégales, vraiment, il y a un problème. Nous, on ne va jamais nous associer à ça parce que nous avons pris des engagements vis-à-vis du peuple malien que nous allons défendre la démocratie, que nous allons faire en sorte que l'état des droits soit respecté dans notre pays. Cela suppose que la loi soit appliquée non seulement par les citoyens, tous les citoyens, mais aussi sur les gouvernants. Donc, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est des poids, des mesures. Donc, aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de communication auprès de nos militants, de nos sympathisants, de tous ceux qui nous écoutent, alors pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ce projet référendaire n'est pas opportun, ce projet est égoïste, ce projet va diviser les Maliens, et qu'aujourd'hui, tout le monde a constaté que dans la région de Kidal, toute la région entière, on n'a pas pu tenir les élections.
Nous allons voir
à Kidal. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Disons, ça, c'est catastrophique.
Au déroulement de cette élection, le temps de faire un tour à l'intérieur, comme vous le savez, Studio Tamani a employé tout au long de cette journée ses journalistes et ses correspondants à travers le pays pour suivre la tenue de cette élection référendaire. Et le résumé de cette journée du 18 juin, on l'écoute avec Fatih Yattara.
À Banamba, des forains ont aperçu ce dimanche des individus armés en train de poser des engins explosifs sur les axes de Sémé et Toubakoro. Les forces armées avaient emprunté plus tôt dans la matinée la même voie pour aller sécuriser les scrutins à CBT, une autre localité de Banamba. Une équipe de déminage s'est rendue sur place. Autre incident signalé dans la localité, c'est l'incendie des bureaux de vote de Sobougou dans la commune rurale de Boron et de Moribougou Fitobé dans la commune rurale de Toubakoro. D'après les sources locales, des hommes armés sont responsables de ces actes. À des milliers de kilomètres de la région de Koulikoro-Menaka, au nord du pays, le vote se déroule uniquement dans la commune urbaine de Menaka. Dans la région de Kidal, des personnes se sont rassemblées ce matin devant les locaux de la MINUSMA à Gelhok. Elles manifestaient contre la tenue du référendum.
Madame Aminata Sangaré, pouvez-vous nous parler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu élection dans tout le pays?
Bon, je peux juste parler du constat que j'ai pu faire dans différents centres.
Ok.
Parce que je ne peux pas avoir les informations pour tous les pays.
D'accord, allez-y.
Mais les centres dont j'ai fait des tours ce matin, le vote se déroulait dans un climat apaisé. D'abord, le matin, il y avait la timidité des électeurs. Parce que, parlons, l'élection, c'est les hommes avec grand âge, mais plus particulièrement, c'est les femmes et les jeunes. Alors que les femmes, c'est vis-à-vis de leurs travaux domestiques et autres, elles ne peuvent pas sortir le matin pour aller voter. Mais à partir de 13h, 14h, il y avait vraiment une partie de la population qui sortait massivement pour le vote, que ce soit du oui ou du non, ça c'est autre chose. Mais ce que je peux dire aussi, entre parenthèses...
Et s'il vous plaît, juste avant d'arriver à cette parenthèse, est-ce que ce constat, c'est uniquement à Bamako ou d'autres localités font partie de ce constat que vous venez de faire?
Oui, on avait aussi un groupe qui était parti sillonner quelques centres au niveau de Sékou, qui est déjà de retour à Bamako, dont Honorable Abogasiri Fomba faisait partie de la délégation. Moi, j'étais au niveau de Kati, et plus précisément au centre des camps militaires. Et puis d'autres centres environnants étaient là à sillonner par rapport au déroulement du vote. Et tout s'est passé bien. Mais il faut juste retenir et par rapport à cette constitution qui a vraiment des innovations à tenir. Je ne dirais pas que les gens qui se disent qu'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas une question d'opposition, c'est juste une question de vision à mon avis. Parce que moi, à ce niveau, j'ai ma position, j'ai une vision. Et l'autre, à ce niveau, il a aussi sa vision. C'est juste une question de vision et non une question d'opposition vis-à-vis de la Constitution.
Mais que direz-vous à ces propos qui viennent de dire que les règles du jeu étaient faussées dès le début et que ce projet de nouvelle Constitution vise plutôt à diviser que de réunir le pays?
Je dirais qu'à ce niveau, la Constitution, ce projet de Constitution tire sa légitimité aux assises nationales de la refondation que les Maliens ont demandé à travers les assises nationales de la refondation. Et ces Maliens, on ne peut pas les exclure du pays. Il y a d'autres qui ont exprimé. Donc, c'est les autorités de la transition ont pris une partie des aspirations profondes du peuple malien, tout en faisant un projet de constitution. C'était vraiment une demande majeure de la population. D'une partie de la population, on peut dire ça. Parce que là, cette population qui exprimait ça, on ne peut pas les exclure de cet état. Donc, je dirais que cette constitution tire sa légitimité aux assises nationales de la refondation, que la majeure partie des Maliens ont participé à ces assises, à différentes localités du pays.
Et puis Traoré, d'accord.
Je vous vois un point aussi.
On dit que bon, et la constitution de 92 n'autorise pas une nouvelle constitution. Je peux dire, je suis pas spécialiste du droit, hein, mais je peux dire à ce niveau que tout ce que la loi ne dit pas là, la loi l'autorise. Si la loi ne dit pas quelque chose là, c'est que dire que la loi peut autoriser.
Donc, nulle part
parce
dans la constitution.
Si c'était ça, la loi devait mentionner qu'il n'y aura pas une nouvelle constitution. L'élaboration des nouvelles constitutions, il devait mentionner ça. Les acteurs de 92 devaient mentionner ça, qu'il n'y aura pas l'élaboration d'une nouvelle constitution. Bon, comme ils ne l'ont pas mis. Et puis, c'est toute œuvre humaine, chaque chose a ses insuffisances et ses autres. Cette constitution a vraiment montré ses limites. Il faut qu'on adopte une autre constitution vis-à-vis même du contexte dont nous vivons aujourd'hui.
Merci beaucoup, Madame Traoré, Madame Sangaré, Monsieur Traoré. Je vous voyais demander la parole, mais laissez-moi donner la parole à l'observateur d'abord, Monsieur Diarra.
Oui.
Il y a eu vote partout dans le pays aujourd'hui.
En tant qu'observateur, d'abord, il faut que je rappelle qu'il y a 24 416 bureaux de vote. Le principe, c'est ça, sur toute l'étendue du territoire, donc de Kaya à Kidal. Et nous, nous avons observé sur ces 24 013%, c'est-à-dire nous avons déployé au total 3000 observateurs. Alors, le constat est que le vote ne s'est pas déroulé dans beaucoup de localités du pays. D'abord, la région de Kidal, il n'y a pas eu d'élection. Ça, c'est
déjà toute la région.
Dans toute la région, il n'y a pas eu d'élection dans la région de Kidal. Également dans beaucoup d'autres parties du pays où les élections, les opérations avaient démarré, ont été stoppées du fait des raisons d'insécurité. Je prends par exemple dans la région de Kay, précisément dans le secteur de Djema, à la commune de Djankirdé, il y a eu des incidents là-bas. Et quand on vient dans la région de Koulikoro, il y a à peu près, je dirais, 8 à 9 centres du secteur de Nara qui ont été affectés et les opérations ont été interrompues par endroits. Donc ça, c'est la région de Koulikoro. S'agissant de la région de Ségou, il y a, on peut dire, dans le secteur de Nyono, il y a des zones où les opérations ont été interrompues parce que les agents électoraux ont reçu des menaces de mettre fin aux opérations. Donc pour des raisons de sécurité, il y a eu ce cas. Et même, il y a eu la fermeture anticipée des bureaux de vote et des dépouillements anticipés dans certaines localités, notamment à Masséna. Donc ça, c'est dans certaines localités de Masséna, précisément à Kouakiri et autres. Donc quand on monte maintenant plus au centre, dans la région de Mopti, alors Yuwaru, on se rend compte que sur 38 bureaux de vote, c'est 15 bureaux de vote qui ont effectivement ouvert à Yuwaru. Ça, c'est le secteur de Yuwaru. Alors, quand on prend d'autres localités telles que Bankas, Badiankara, c'est pareil. Également, dans la région de Tombouctou, il y a eu moins d'incidents, peut-être des incidents isolés, précisément dans le secteur de Niafunke, sinon dans le reste de la région, ça va. À peu près sur le plan du déroulement des scrutins, en tout cas en lien avec d'abord la situation sécuritaire. Pour les autres, la région de Gao, ça va un peu mieux, où ça s'est tenu, y compris le district de Bamako. Plus la région de Sikasso, là, quand même, on peut dire que les élections sont tenues dans des conditions vraiment acceptables. Mais les localités que je viens d'évoquer, là, il y a eu assez de manquements là-bas. Ça, c'est surtout dû aux crises sécuritaires, à l'effet de l'insécurité dans ces localités où les opérations n'ont pas pu se dérouler quand même dans les bonnes conditions. Donc ça, c'est un constat. C'est ce que nous avons observé sur le terrain. Maintenant, sur d'autres aspects, au-delà de l'insécurité, il y a d'autres facteurs qui ont un peu fait traîner le processus, mais qui sont moindres, ça ne représente pas 2 à 3%, notamment le matériel électoral, etc. Mais ça a une infime proportion, je le dis bien, maximum 2 à 3%, c'est 3%, d'après nos observations. Donc, alors, dès que les élections sont tenues sur l'ensemble du territoire, nous, en tant qu'observateurs, nous ne pouvons pas confirmer cela parce que la réalité est qu'il y a eu assez d'incidents qui ont émaillé, en tout cas, la journée pour certifier cela.
Donc, alors, Monsieur Traoré, je vous laisse la parole encore. Vous avez tantôt parlé de ces incidents, les bureaux de vote qui ont pu ouvrir, d'autres qui ont pu terminer. On sait également que dans vos QG également, vous êtes en train de collecter les informations pour faire le dernier bilan. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'atmosphère? Est-ce que les gens sont sortis dans vos observations pour voter également, hein? Et également, si on vous demanderait de faire un pourcentage, un taux national, vous avez parlé de 2000 et quelques bureaux de vote, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, à l'instant T maintenant, vous pouvez nous dire que un pourcentage approximatif de bureaux de vote qui ont pu ouvrir ou pas?
Ok. Disons, à les informations que je vais donner, c'est à 16 heures. C'est les données qu'on a mises à jour. Bien, d'abord, j'attire votre attention. C'est 3000 observateurs qui ont été déployés et non 2000. Maintenant, il y a 85, on peut dire 85% des bureaux de vote qui ont été effectivement ouverts. Mais s'il s'agit de l'affluence, c'est-à-dire que le taux de participation à 16 heures, on était dans l'ordre des 21%. Ça, c'est le taux de participation au niveau national, ce qu'on a collecté. Quand on fait la sommation, on se rend compte que voilà, nous sommes à 21% de taux de participation à notre niveau, ce qu'on a constaté. Maintenant, l'engouement de façon par localité, à Bamako, on constate quand même qu'il y a un engouement assez mitigé. Hein. Il y a des sorties qui sont là. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres localités où vraiment, par exemple, je prends le cas de Bourem, hein, où l'atmosphère est très morose. Voilà. Donc, ce que je peux dire à ce niveau, c'est à peu près cela, 21% de taux de participation, mais taux d'ouverture des bureaux de vote, effectif à, le matin, pendant la matinée,
du matin jusqu'aux matin, environs de 16 heures,
c'était 85%. Mais sur les 85% aussi, je l'ai dit, à un moment donné, il y a eu des incidents qui ont fait que certains bureaux ont été fermés ou bien encore il y a eu des courtes pauses, disons des interruptions du processus. Donc voilà, si on nettoie le taux, on se retrouve avec un taux net de 83% voilà, de bureaux de vote ouverts.
Monsieur Traoré, je vous donne la parole à présent. Madame Sangaré disait que cette élection référendaire tire sa légitimité des assises nationales pour la refondation. Également, Monsieur Diarra disait dans ses propos tout à l'heure qu'au moins 85% des bureaux ont pu rouvrir malgré des incidents dénoncés ça et là. Est-ce que tout ceci ne concourt pas à donner une légitimité à cette élection référendaire-là?
Mariam, vous savez, quand on dit que le Mali est un pays d'état de droit et qu'il faille coûte que coûte respecter la loi et la constitution, ce n'est pas des vains mots. Je suis toujours au regret de voir toujours les conseillers nationaux de transition, alors qu'ils nous disent toujours que ce projet référendaire tire sa légitimité alors des soi-disant assises nationales de refondation. Je suis désolé. Ces assises nationales de refondation ne sont que des actes de fait et non des actes de droit. Nulle part vous ne verrez les assises nationales de refondation dans la Constitution, encore moins dans la Charte de la Transition.
Mais elle dit tout ce que la loi n'admet pas qu'on sent parce que dans
désolé, la... Désolé doublement. Okay, c'est qu'elle
dans
dit,
la Constitution de 92,
ce qu'elle dit
c'est pas,
par rapport à cela. Par rapport à cette disposition, il ne s'agit pas de la Constitution, mm-hmm. bien entendu, mais il ne s'agit pas de la Constitution, mais du Code pénal, qui dit que tout ce qui n'est pas interdit... Alors, et tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être autorisé. Ça, ça concerne seulement l'exercice des droits fondamentaux des citoyens et non pas la Constitution. Deuxième élément, elle dit que ce n'est pas une révision, que c'est un changement de Constitution et qui n'est pas prévu par cette Constitution elle-même. Mais bien entendu, raison de plus, ces autorités n'ont pas le droit de les toucher. Parce que c'est sur la Constitution que ces autorités ont juré devant les Maliens et devant la communauté internationale. Deuxième élément, vous savez, quand on veut changer une constitution pour aller dans une nouvelle république, là, mais il y a un standard international qu'il faut respecter quand même. La première condition, ça voudrait dire que nous n'avons plus d'ordre constitutionnel établi. Ça veut dire que la constitution est tombée, il n'y a rien. Par exemple, il y a un coup, s'il y a un coup. Par exemple, si en 2020, le 18 août 2020, ces jeunes militaires avaient pris leur courage de suspendre cette constitution, on n'en serait pas là. Moi, je n'en ai pas parlé. Mais ils ne se sont pas assumés. Ils ont voulu faire voilà, les trucs pour. Quand même, qu'on se respecte. Si on veut faire une nouvelle constitution, madame, première condition, on balaye la constitution actuelle. Il n'y a pas de constitution, on est à plat. Deuxième condition, il faut mettre sur place une constituante, ça veut dire une assemblée spéciale qui va rédiger un projet de nouvelle constitution, ce que certains appellent pouvoir, j'oublie le terme technique. Donc, il faut une constituante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons ramassé des gens dans la rue, excusez-moi des termes, je n'ai pas d'autres mots. Nous avons ramassé des gens dans la rue, nous avons fait venir nos amis du grain, nos familles, nos cousins, alors pour les remplacer par nos illustres députés. Et que ces gens-là vont voter des lois en notre nom, en notre place. Nous avons fermé les yeux sur tout ça en les dénonçant, en pensant que c'est une période passagère. Mais notre constitution, notre loi fondamentale, nous n'allons jamais accepter ça, madame. En tout cas, vivant, nous n'allons jamais accepter ça. C'est notre loi fondamentale. Et cette loi fondamentale-là a été rédigée par les sang des Maliens. Ils sont couchés ici, tout près, à Nyarela, au carré des martyrs. Donc, vraiment, je m'incline devant la mémoire de ces martyrs. Nous avons toujours rappelé à ces autorités qu'ils doivent respecter la Constitution et que seul le respect de la Constitution peut même les protéger. Mais malgré nos dénonciations, nos réticences, nos critiques, alors ils ont toujours, aujourd'hui, nous avons la réalité, le temps nous donne raison. Nous avons demandé à ces autorités que notre constitution actuelle a dit clairement en son article 118 qu'elle n'acceptait pas qu'un projet référendaire soit entrepris pendant que les autorités ne maîtrisent pas l'ensemble du territoire, surtout sur les plans sécuritaires. Alors, cette disposition constitutionnelle n'est pas mise là-bas pour rien. Elle tire sa source d'une histoire ancienne. La Révolution française, après la Révolution française, quand De Gaulle, quand l'Allemagne a pris la France jusqu'à Paris et que De Gaulle a fui pour aller en Angleterre, donc le gouvernement de Vichy avait voulu faire un changement de constitution. Donc du coup, quand la France a repris, donc ils ont mis dans leur constitution la constitution de 58, la 5e République. Donc, tant que le pays n'a pas sa souveraineté, n'a pas son intégrité territoriale, alors qu'il ne faut pas procéder
donc,
à ça.
En français facile, c'est que nous n'avons pas le contrôle
de notre territoire. Même si on continue de dire que l'armée est montée en puissance ou bien en quoi, je ne sais pas quoi. Je ne critique pas l'armée, j'aime bien mon armée, et je l'apprécie, elle fait de son mieux. Mais ce sont des propagandistes, des laudataires qui sont en train vraiment de chanter pour leur propre intérêt égoïste. Alors vraiment, c'est le chaos. Mais ce qui est sûr, nous, en tant qu'appel du Mali, nous avons déjà fait des recours au niveau de la Cour suprême pour des excès du pouvoir et au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse se saisir par rapport à la régularité de ces opérations référendaires. Je dis bien opérations référendaires parce que c'est des opérations. Donc, du début jusqu'à la fin. Hier, déjà, nous avons eu
la suite de la Cour constitutionnelle. Donc vraiment, nous sommes encore très désolés pour ça, mais nous allons quand même continuer à nous battre jusqu'à ce que l'état des droits soit respecté dans notre pays.
Alors, M. Traoré, je vais donner la parole à Aminata, à honorable Aminata Sangaré, qui a certainement des réponses à donner à tout ce que vous venez de dire. Mais Aminata Sangaré, il vient de dire tout à l'heure que le scrutin référendaire, pour qu'il soit légitime, il fallait que ça se tienne dans tout le pays. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que cela entacherait la légitimité de cette élection, selon vous?
Bon, je ne vais pas répondre à mon grand frère. Parce que je pensais que le débat, c'était un débat fondé sur la sagesse. Ça, je n'ai pas constaté ici dans son intervention. J'ai fait un bref retour à nos valeurs et nos principes. C'est ça, la faute à la démocratie. Mal interprétée et mal comprise.
La démocratie a été mal interprétée
et mal comprise. Sinon, si ce n'était pas le cas, il ne peut pas dire qu'on a ramassé des gens à la rue et faire des conseils qui votent des lois à nous-mêmes. Ça, je suis désolée. Je ne vais pas lui répondre à ce point. Parce que mes valeurs et mes principes ne me permettent pas. Mais ça, c'est tout ça, c'est alors, la faute à la démocratie.
Ça, c'est clair. En venant donc à notre question, voilà. Quelle légitimité cette élection aura du moment où il vient de dire qu'il y a l'insécurité et qu'elle n'a pas pu se tenir sur l'ensemble du territoire?
Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les pays soient sécurisés totalement. À quand cette sécurisation du territoire national? À quand? Nous sommes plongés dans cette crise il y a plus d'une décennie. Et les gens ont passé, ils ont essayé. Chacun a fait à sa manière. Ça, c'est la manière des autorités de la transition, mais à travers les aspirations profondes du peuple malien qui ont exprimé, que ça soit. Et puis, un point encore, quand on parle du 18 août, moi, je ne dirais pas un coup d'État, je dirais plutôt un parachèvement. Parce que ce sont ces gens-là qui sont sortis barrer nos routes. En nous empêchant de travailler correctement, en disant non à tant en temps de dégager par rapport à la mauvaise gouvernance ou autre. C'est ce qui a amené les militaires. C'est le peuple qui n'a pas su gérer ces pays avec leurs gouvernants. Non, si c'était le cas là, les militaires là, ils connaissent leur place. Mais si vous ne parvenez pas à bien gérer vos trucs là, bon, ceux qui détiennent les armes vont venir. C'était juste un parachèvement et non un coup d'État. Je rectifie à ce niveau. Parlant de la sécurité du pays, mais en si peu de temps, il faut reconnaître, même si vous n'aimez pas du tout les autorités du pays, il faut reconnaître qu'en si peu de temps, ils ont fourni assez d'efforts par rapport à la sécurité de ces pays sur le plan national. Mais comme toute œuvre humaine, il y a toujours des insuffisances. Il faut faire face à ces insuffisances. Donc je ne dirais même pas qu'ils ont fait des échecs, parce que moi, l'échec ne se figure pas dans mon dictionnaire. Moi, je prends l'échec comme leçon apprise. Il y a toujours des leçons apprises à travers des échecs, que les gens appellent échecs, mais moi, j'appelle à mon niveau leçons apprises. À chacun son agenda. Bon, si vous appelez les gens, il faut nous donner les lignes directives, quoi. Parce que là, au niveau du CNT, comme il dit conseiller, moi, tout le monde peut appeler les gens, les membres du CNT, comme ils veulent. Ça n'engage que personne. Parce que la vie, là, c'est une question de perception. Moi, je prends la vie comme une question de perception seulement. Moi, je ne dirais même pas que les gens s'opposent aux autres. C'est pour ça que je dis que la vie, c'est une question de vision et de perception. Si c'est ça, là, il y a des gens aussi qui sont là-bas, qui peuvent être nos mamans et nos papas. Tout le monde ne peut pas se mal barrer tout le temps. Il faut reconnaître ça.
Alors, madame,
soi-disant, votre état de droit et de démocratie a failli.
Madame, je pense que vous avez expliqué votre position par rapport à ce qu'il vient de dire. Mais déjà, dans vos propos à l'entame de cette émission, vous avez consenti à dire qu'il y a eu une faible mobilisation. Et on sait que les partisans, ou disons le camp du oui pour ce projet de nouvelle constitution a fait assez d'activités pour mobiliser les Maliens à aller voter oui pour ce référendum-là. Quelle explication donnerez-vous alors à cette faible mobilisation? Est-ce que le message n'a pas été bien compris ou il y a eu, qu'est-ce qui a fait que les gens ne sont pas sortis comme il le faut aujourd'hui?
Il y a eu faible mobilisation, c'était par rapport à un point, c'est-à-dire le matin. J'ai dit que l'électorat est homme avec grand âge, mais elle est particulièrement femme et jeune. Les femmes vis-à-vis de leurs travaux domestiques et autres ne peuvent pas sortir très tôt le matin pour aller voter à l'heure habituelle que les hommes. Alors que la majeure partie des électeurs et électrices, ça c'est les femmes et les jeunes. Souvent on a des trucs à faire. C'était juste seulement au matin. Sinon, et à partir de 13h, 14h, là où j'ai fait le constat, il y avait une forte mobilisation par rapport au matin. Okay. Il y avait juste une timidité.
Madame Sangaré, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette journée du 18 juin, le résultat attendu sera représentatif des voix d'un Malien pour ce référendum-là?
Bon, à travers ce vote, je sais bel et bien qu'il y a une prise de conscience généralisée. Que les gens veulent, oui ou non, il y a une prise de conscience généralisée vis-à-vis de la jeunesse et puis des femmes. Parce qu'autrefois, on nous manipulait avec des mots par-ci, par-là. Bon, on n'a pas assez vu dans ces pays, mais on a assez compris quoi.
Compris quoi? On a assez compris quoi?
Ouais, on a assez compris, mais on n'a pas assez vu, mais on a assez compris.
C'est-à-dire? Non. En français facile, madame. On a assez vécu, on n'a pas assez compris.
On n'a pas assez vécu, mais on a assez compris quoi.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On n'a pas assez vécu, on a assez compris.
Compris. En si peu de temps.
En si peu de temps.
Merci.
Alors, M. Diarra, je vous donne la parole. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette élection référendaire, le gouvernement de la transition a reçu le pari d'une élection apaisée?
Une élection apaisée, difficilement on peut le dire. Hein, parce que n'oublions pas qu'il y a une partie quand même du pays qui n'a pas participé aux opérations. Maintenant, est-ce que c'est apaisé? Parce que si on doit évaluer l'inclusivité, la participation inclusive de tous les citoyens, on se rend compte que c'est difficile. Kidal n'a pas voté. À Bamako et dans beaucoup d'autres localités du pays, on se rend compte qu'il y a le camp du non qui était là, qui a battu campagne. Et également, il y a ceux qui étaient opposés, même
ouais, le rejet notre co-débatteur, M. Abdelkader.
Apaisé au sens également les incidents sécuritaires aussi qui ont émaillé. Donc, tout ceci sont des critères qui permettent de dire que vraiment c'est mitigé, de dire que ça a été apaisé parce que les autorités n'ont pas réussi à créer l'inclusivité tant sollicitée et toujours prônée, par exemple, au niveau de la Morel Mali, parce que nous avons toujours demandé aux autorités de mettre l'accent sur le dialogue, le consensus, afin de parvenir à l'inclusivité. Parce que quoi qu'on fasse, une constitution, c'est pour l'ensemble du pays, si ça devrait être adopté. Alors, j'imagine mal comment mettre en œuvre une constitution à laquelle toutes les parties, tous les citoyens ne se sentent pas intéressés ou concernés, surtout qu'il y a eu des oppositions à cela.
Cette position est bien comprise. Et avec votre œil d'observateur,
oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a marché dans cette élection référendaire et qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Et que faut-il bien sûr améliorer?
Qu'est-ce qui a marché, je dirais, c'est d'abord la tenue du référendum. Parce que c'est un véritable challenge, un véritable défi pour les autorités. En termes de défi politique, en termes de défis logistiques. Politique, parce qu'il y a eu tellement d'opposition. Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on a vu des expériences antérieures, hein, notamment avec Alpha Omar Konaré, avec Atiti, avec Ibeka, qui ont échoué, donc ils ont réussi quand même à relever ce défi-là, même si c'était un forcing, d'autres le diraient, mais nous quand même, on présume quand même que c'est un défi qui a été relevé. Ça, c'est au niveau politique. Alors, au niveau logistique et matériel, malgré les conditions réelles sur le terrain, le fait de pouvoir quand même déployer des agents électoraux, tenir ces élections, vraiment, c'est un motif de satisfaction qui doit être au crédit quand même du gouvernement. Maintenant, en termes de challenge, ce qui n'a surtout pas marché, c'est l'échec du gouvernement, sinon des autorités de la transition, à pouvoir réunir les Maliens autour de ce projet-là. Ça, c'est un échec. Également, les multiples violations de la loi électorale. Pendant toute la période, ça, quand même, c'est quelque chose, c'est un défi, quelque chose qui n'a pas marché, qui a été signalé à plusieurs reprises. Mais malheureusement, on constate que l'objectif, quand même, c'était vaille que le référendum, les élections se tiennent. Voilà. Mais une chose est sûre, maintenant, en termes de perspective, je dirais quand même qu'il faudrait impérativement trouver des solutions pour au moins respecter la loi électorale pour le prochain scrutin. Parce que si moi, j'ai déploré quelque chose durant tout le processus, hein, que ce soit la période pendant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et même à venir probablement, c'est les multiples violations de la loi électorale quand même qui ont entaché les
Vous
efforts.
Vous parlez de violations de la loi, lesquelles par exemple?
Je prends juste un exemple. Hein, la loi électorale interdit l'utilisation des téléphones dans les bureaux de vote. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a des gens qui filmaient toute partie de du processus de leur vote. Depuis l'entrée du bureau de vote jusqu'à l'isoloir, jusqu'au retour dans les urnes. Ce qui est une
violation
flagrante de la loi. C'est juste un exemple que je donne parmi tant d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Mais ça, c'est plus facile à comprendre, en fait. Donc, il y en a beaucoup. Okay. Donc,
alors, on me signale qu'il reste 4 petites minutes pour clore cette émission. Le temps de donner la parole au camp du oui et du camp du rejet pour le thème de ce projet de constitution. Je vais commencer par vous, M. Traoré. On sait que votre position, vraiment, c'est même pas le non, c'est le rejet carrément de cette constitution. Mais il y a eu quand même vote aujourd'hui. Les Maliens sont sortis pour voter oui ou non pour ce référendum-là. Et en croire les propos de M. Diarra, il y a eu au moins 85% des bureaux de vote qui ont pu rouvrir et vers 16h, 21% de la population ont pu remplir ce devoir citoyen. Et au vu de tout ça, vous avez suivi quand même en tant qu'homme politique, qu'il faudrait-il améliorer dans le processus d'organisation des élections pour les futures échéances électorales?
Merci, Mariam. Avant de répondre à votre question...
Non, rapidement,
je me réjouis quand même que madame ait reconnu que, malgré l'insécurité, ils se sont entêtés à faire cette élection.
Bon, elle l'a reconnue, donc c'est bon, on peut aller.
Deuxièmement, madame, il ne faut rien à améliorer. On ne doit pas améliorer. On a à respecter nos propres lois. On a à respecter notre constitution. Tant qu'on ne respecte pas notre constitution, tant qu'on ne respecte pas nos propres lois que nous-mêmes, nous avons vraiment fabriquées pour nous, pour le bien-être de la population malienne, alors on n'ira nulle part. Et puis,
Monsieur
Traoré,
c'est pas si vous m'aviez compris. Est-ce que, par exemple, un exemple que je vous donne, est-ce que ce même dispositif, cette même façon de faire pourrait être conduit, par exemple, pour l'élection présidentielle à venir?
Madame, aujourd'hui, nous avons le sentiment que le pays est pris en otage par les hommes en armes. Dans les conditions où ces opérations référendaires se sont passées, ce sont les mêmes conditions, si les choses continuent comme ça, que même les élections présidentielles là, vont se passer. C'est pourquoi l'appel du Mali, dès demain, nous allons nous concerter pour, dans un premier temps, faire des communications à l'attention vraiment de tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Deuxième élément, nous sommes en train aussi de préparer des recours déjà qu'on va mettre devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer toutes ces irrégularités constatées lors de ces opérations référendaires. Au cas où ces résultats vont sortir, nous allons les constater, nous allons les contester.
Merci beaucoup, M. Traoré. Le temps de donner la parole maintenant à l'honorable Aminata Sangaré. Il y a élection ce 18 juin. Les Maliens sont sortis pour voter oui ou non. Que faut-il améliorer en vue des futures élections où on peut maintenir la même formule?
Bon, je dirais tout simplement, comme tout théorie humaine, il y a des insuffisances. C'est-à-dire, les Maliens, on n'est pas facile à gérer, quoi. Mais je disais tout simplement que cette constitution se distingue par rapport à la souveraineté de l'État malien. En officialisant nos langues nationales, vous savez que la majeure partie de nos populations ne comprennent pas beaucoup vos français là. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'est pour cette raison que la constitution se distingue en officialisant nos langues nationales, en mettant aussi belle mention aux autorités légitimes et traditionnelles comme garant de nos us
de nos us et coutumes.
Alors, merci beaucoup, honorable Sangaré. C'est sous vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait au déroulement du scrutin du 18 juin, scrutin référendaire. Nos invités ont quand même tous été unanimes sur un point. Il y a eu élection aujourd'hui. Bien vrai que nous avons eu le camp du rejet de la Constitution qui vient de dire qu'ils vont déposer des recours pour dénoncer la tenue de ce référendum. L'Observateur vient de dire que à 16h, il y avait au moins un taux de participation de 21% et 85% de bureaux de vote étaient ouverts. Et l'honorable Aminata Sankaré, dans ses propos, se réjouit de la tenue de cette élection référendaire, satisfaction totale. Et moi, je dirais à nos auditeurs et téléspectateurs que les Aigles du Mali se sont qualifiés pour la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire en 2024. Le Mali a battu tout à l'heure le Congo, 2-0. Et c'est la fin donc de cette émission du Grand Dialogue. Grand merci à nos invités. À la présentation, c'était Mariam Maïga et réalisation Mariam Koulibaly. À la régie son et vidéo, Mamadou Ouattara et Salim Diouara. Merci à toutes et à tous et on se dit à la prochaine.